Les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre de ce soir. D'abord, deux points d'information. Cet hiver, Rinpoche sera en retraite d'hiver aux îles Canaries pendant les mois de janvier et février. Ce sera l'occasion d'une série d'enseignements avancés sur la voie du Bouddha. Et il est possible pour des assistants de Rinpoche et ou des anciens de se joindre à la retraite. Le nombre de places dans la résidence est limité à 8, mais des possibilités d'accommodation, possibilités hôtelières en français, existent à proximité. Pour tout renseignement complémentaire ou candidature, s'adresser à Selma ou directement ou à son numéro, l'information pourra être relayée éventuellement sous forme d'un petit message newsletter. Nous allons voir. Deuxième brève information, une petite modification dans la programmation des rencontres et enseignements de ces prochains jours, principalement pour commencer une série d'enseignements sur les préliminaires préparations au Vajrayana, à la requête d'un certain nombre de pratiquants. Donc, ces enseignements auront lieu ce soir, samedi 7, lundi 9, samedi 14, lundi 16 et samedi 21. Donc, 5 enseignements. Les autres sont inchangés par rapport à la programmation. Tout cela apparaîtra clairement sur la grille des programmes du webcast. C'est simplement pour ceux qui n'ont pas cette grille avec eux. Donc ce soir, nous allons commencer la transmission, l'étude et la pratique, la transmission de ce que l'on nomme les Nanjo, ou préliminaires du Vajrayana. Les préparations préliminaires de la voie initiatique, qui est le Vajrayana, les préliminaires à la transmission des yogas symboliques et énergétiques du Vajrayana, et aussi les préparations préliminaires au Mahamudra et au Dzogchen. Donc, il s'agit des préparations à l'ensemble des pratiques de la voie adamantine, le Vajrayana, et de la voie de l'autolibération, Mahamoud Radjotchen. Ces différentes pratiques faisant partie de ce que l'on nomme globalement la voie initiatique. Voie initiatique au sens où il y a une initiation, initiation signifiant introduction, présentation et aussi consécration et aussi habilitation, une transmission particulière qui introduit et prépare. Les Nendro sont là dans ces préliminaires préparations pour nous préparer, préparer le terrain, préparer le terrain de notre esprit, préparer le terrain de notre être, de notre personne. Vous avez sans doute déjà lu la présentation des préliminaires dans la voie du Bouddha. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, c'est à la page 282. Et Vajradhara Kaluranjun Kimkyam, Vajradhara Kalurimbache, il présente ses préliminaires comme la préparation d'une route. D'ici l'on souhaite se rendre avec un endroit donné, on a besoin d'une route, on a besoin d'un chemin, et il est important que ce chemin soit bien établi, bien préparé, sans rocher sur la route, sans cailloux. On peut utiliser l'image de la préparation du chemin, on peut utiliser aussi l'image de la préparation du réceptacle que nous sommes. Les préliminaires, les Nendro, accomplissent globalement ce que l'on nomme le développement-dévoilement. Je pense que vous êtes familier déjà avec cette notion de développement-dévoilement qui résume toute la voie, qui résume tout le cheminement. Dans le développement de vertu et de gnose, d'expérience première, et le dévoilement du voile des passions et des illusions. Dévoilement, développement étant concomitant. Et donc ces différents préliminaires accomplissent cette opération de transformation, même on pourrait dire de transmutation ou de développement-dévoilement. Ce sont des pratiques très importantes. Car ce sont elles qui nous rendent véritablement réceptifs à la transmission, qui font de nous le réceptacle adéquat, doté de la sensibilité, de la réceptivité qui permet que la transmission soit féconde. Ces préliminaires nous rendent un terrain fertile dans lequel la graine de la transmission essentielle peut prendre, germer, croître et fructifier. Donc, ce sont très important et ce ne sont, somme toute, pas que des préliminaires au sens d'une étape préparatoire et transitoire. Ces pratiques constituent aussi le cœur de, on peut dire, sont au cœur de la transmission. Il est une parole célèbre de Sangye Tenpa, un des grands maîtres à l'origine de la lignée, qui dit, il dit en tibétain pour la bénédiction, Yansab Ninpe Dengomdi, Ngondro Drachang, Ngushir Til, Kelsang Kyu Djenyigi, Dirbe Zungju Chunisho. C'est-à-dire en français, ces méditations, récitations, qui sont donc ces pratiques préliminaires, essentielles et très profondes, sont dites préliminaires, nando, mais sont le cœur des pratiques principales. Puissent des myriades de fortunés faire effort en celles-ci et réaliser la suprême union. La transmission, il y a toujours eu des épreuves. Ces épreuves peuvent être spontanées ou amenées aussi par le maître pour à la fois tester le disciple et aussi comme une pratique préparatoire, comme je l'expliquais, de fertilisation du terrain ou de développement d'une réceptivité adéquate, une pratique de purification aussi. Il y a dans la lignée ou dans les lignées de transmission beaucoup d'exemples ainsi d'épreuves que subir ou à travers desquelles passèrent différents maîtres. Parmi les plus célèbres, peut-être Naropa, Milarepa, mais tous eurent ainsi à se tester, à s'éprouver et à passer dans cette opération de purification et aussi d'engagement, de dédicace de leur personne dans la voie de l'éveil par ces nendo. Alors, par ces nendo, en fait, dans le temps, il y avait des fois des formes d'épreuves très très informel. Milarepa construisit des tours. Naropa eut 12 épreuves majeures, 12 épreuves mineures, dont certaines assez excentriques. Aujourd'hui, cette purification et ce développement, ce dévoilement-développement, s'accomplit dans ces préliminaires spéciaux du Vajrayana qui sont au nombre de 4, 5 ou 6, suivant la façon dont on les compte, et qu'on appelle souvent les 100 000, au sens où dans chacun, il est une pratique élémentaire que l'on répète 100 000 fois. Nous allons voir les nunjo de la tradition Champakyalun, notre tradition. Ces nunjo sont ceux particulièrement du Mahamudra des Dakini. Le Mahamudra dans la transmission des Dakini de Dnose, Sukhasiddhi, Niguma, et des cinq enseignements d'or, Champakyalu, enseignement d'or présenté dans la métaphore de l'arbre de vie, de l'arbre d'éveil, avec les racines qui sont les six yogas, le tronc que le Mahamudra, les trois branches qui sont l'intégration, les fleurs que sont les dakini blanches et rouges, et le fruit qui est la non-mort au-delà de l'errance. Ces nunjo se nomment les Vajrapada flamboyants d'inspiration. Et il serait bien pour ceux qui vont commencer en commencer la pratique d'en avoir le texte. Ça n'a pas été prévu ce soir.
C'était fait exprès en fait. Comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils viendront vers Sengé, Lama Sengé ou moi, et on leur donnera les textes. Pour ne pas qu'il y ait des feuilles qui se perdent, des feuilles volantes, etc.
C'est bien. Vous êtes respectueuse et attentive. Donc, pour avoir le texte, approchez d'Erin ou Sengé. Nous allons voir cette pratique à la fois, ces pratiques à la fois dans le fond et dans la forme. Donc, je suivrai pour la forme le texte. La pratique de ces préliminaires se nomme les Vajrapada flamboyants d'inspiration. Vajrapada a le sens de vers adamantin ou de parole vajra. Ce sont des paroles qui sont vajra, indestructibles, sacrées et venant directement de la réalisation des maîtres de la lignée. Et c'est pourquoi ces Vajrapadas sont flamboyants d'inspiration. Ils sont dotés du feu sacré et dont ils flamboient avec la capacité de nous inspirer. Le texte que nous allons suivre fut composé par Jamdun Tongchul Lodjo Taye. C'est au XIXe siècle, avec des compléments, des instructions spéciales qui ont été données par Vajradhara Kalorimbache, et aussi des notes et addendas du Jamdun Tendin Taisitupa, Taisitupa, qui en a fait une version avec des indadas récemment. Ces Vajrapada, flamboyant d'inspiration, sont extraits d'un texte plus large qui est utilisé pour aussi bien les préliminaires que les pratiques principales de la profonde voie des cinq enseignements d'or de la lignée de la Dakini de Gnose, Niguma. Et il commence par un hommage qui dit « Sixième nature, sublime Upaya, Prajna, vénérable dame Nigupta, en l'union de votre précieuse lignée, jusqu'à l'éveil, prenez-nous comme disciples. » Dans cet hommage, l'on se tourne vers Vajradhara et Niguma. Vajradhara, le Bouddha de la sixième famille omniprésente, et Niguma, la dame de sagesse et de gnose, en l'union de votre précieuse lignée, en la non-dualité de votre précieuse lignée d'éveil, prenez-nous comme disciples. Vos secrets, mots adamantins de lapis, majestueux d'inspiration non souillée, majestueux d'inspiration, non souillés d'artifices d'intelligence vulgaire, sont ici trésors de tous les dharmas d'or. Dans ces paroles qui procèdent de Niguma sont les mots adamantins de lapis, lapis lazuli. Le bleu du lapis est la couleur avec laquelle les paroles adamantines s'inscrivent sur un parchemin d'or. Majestueux d'une inspiration immaculée et non souillée, inspiration immaculée, et ces paroles qui n'ont jamais été souillées par l'intelligence de personnes ordinaires, qui viennent directement d'éveiller, sont ici le trésor de tous les dharmas d'or, les cinq enseignements d'or. Les fortunés qui aspirent à ne pas gâcher la précieuse existence humaine libre et qualifiée qu'ils ont obtenue réaliseront dès cette vie l'état de Vajradhara, entrant en cette tradition. Comme le disent les Vajrapadas, ceux mûris par les quatre pouvoirs, c'est-à-dire les quatre niveaux de l'initiation, confiants et énergiques, qui commencent avec l'impermanence et le désintérêt, c'est-à-dire avec les préliminaires communs, les quatre notions fondamentales et leur expérience qui est la perception de l'impermanence et le non-attachement, et qui font effort en cette voie suprême, tout ceci, en 6 mois, 1 an, ou en cette vie, deviendront Bouddha. Au début des préliminaire, il y a une courte prière à la lignée d'Achan des Champakagu. Cette lignée se nomme Oma Sida des enseignements d'or. Donc c'est un hommage aux Mahasiddhas, c'est-à-dire les grands accomplis des enseignements d'or, de la tradition des cinq enseignements d'or de Niguma. Et c'est une prière à la lignée d'Achan des Champakagu. La tradition Champakagu a son origine qui remonte à Vajradhara, Niluma, Sukhasiddhi, puis à Tchumponeljor, le yogi Garuda, Tchumponeljor, il y a un millénaire, reçu cette transmission des deux dames de sagesse, Niluma et Sukhasiddhi. Et la lignée s'est d'abord transmise en une lignée en laquelle il n'y eut qu'un seul détenteur complet à chaque génération, pendant 7 générations, conformément à une instruction qu'avait donnée Niluma. Et ces 7 premiers maîtres de la lignée constituent ce que l'on nomme les 7 joyaux, les 7 joyaux initiaux de la lignée. Puis, Sangye Tenpa diffusa la lignée, ouvrit le sceau du secret, comme on dit. La transmission se diffusa, il y eut encore 7 autres joyaux, transmetteurs principaux. La lignée arriva à mettre un certain Kunya Golcho, puis à sa suite Taranatha. Il y a une lignée lointaine, une lignée proche, une lignée très proche, je ne vais pas vous expliquer tout ça en détail maintenant, mais c'est ce à quoi rend hommage cette courte prière à la lignée que vous connaissez, puisque c'est celle que nous récitons, chantons tous les soirs. Vajradhara, Niluma, Sukhasiddhi. Donc, on rend hommage à Vajradhara, un Bouddha primordial, Niluma, Sukhasiddhi, les deux dames de gnose. Vajrasana, qui est un des principaux maîtres de Tchumponeljor, qui était à Bodh Gaya. Mahasiddha Maitripa, Maitripa qui est l'un des principaux Mahasiddha, qui a été très important dans la transmission du Mahamudra, ainsi que le yogi caché Rahula, ou les yogis cachés Rahula, il en est deux. Vous, les 6 suprêmes maîtres, je vous prie. Puis, le chef des pandits accomplis, Tchumponeljor, le plus grand, le plus célèbre des érudits accomplis, des pandits accomplis, Tchumponeljor, son principal disciple, Mochopa, puis à sa suite, Untun Kyagampa, Nyentunpa, et le seigneur du Dharma Sangye Tenpa, ce sont les 7 joyaux de la lignée qui se comptent à partir de Vajradhara. Puis ensuite, il y a les maîtres qui ont été les récipiendaires de la transmission proche, Tanton Gyalpo qui a inspiré la pratique d'immense bonté, le sadhana de Chenrezig, que nous pratiquons tous les soirs. Kunga Jolcho, qui réunit 25 branches de la lignée et qui donna naissance au tronc principal de cette lignée, qui est la lignée Jonan Lug, qui a opéré avec la tradition de Jonangpa aussi. Taranatha, le grand Jonangpa et le grand maître qui a composé beaucoup des textes de pratique que nous utilisons aujourd'hui. Et Seigneur Lodre Taillet, c'est Jamdon contre Lodre Taillet. Maintenant, nous sommes au 19e siècle. Lodre Taillet, qui a été le grand maître inspirateur du mouvement Rime, avec certains de ses confrères comme Kensei Wampo, Chodyo de Chenimpa. En tout cas, le grand maître au centre du mouvement Rime qui a composé les cinq trésors, dont l'Encyclopédie des connaissances traditionnelles, qui est en cours de traduction. Puis Ranjun Kunchab, c'est Kalo Ranjun Kunchab, Vajradhara Kalo Rinpoche, et Bokar Vajradhara, son principal disciple tibétain. Puis, à la fin de la lignée, le maître source, et ainsi, maître source et de la lignée, je vous prie. Puissais-je, en cette naissance et en tout autre, étant guidé par de vrais maîtres qualifiés, parfaire expérience Siddhi signifie accomplissement, des cinq dharmas d'or, vivant dès cette vie le royaume primordial. L'hommage à la lignée est quelque chose de très important, car c'est dans cet hommage, on peut dire hommage, on peut dire prière, que l'on se raccorde aux origines de la transmission qui est l'éveil, mais qui en même temps a été éveil qui a été exprimé et transmis par cette lignée qui, à chaque génération, a pratiqué, l'a réalisé et a transmis de maître à disciple dans une filiation intergénérationnelle l'esprit et aussi la forme, la réalisation et les moyens de l'éveil. Donc, de conclure en faisant ainsi le souhait, puissais-je en cette naissance et en toute autre être guidé par de vrais maîtres qualifiés et ainsi pouvoir parfaire les expériences et la réalisation des cinq dharmas d'or dès cette vie. Cette prière à la lignée est récente, elle fut faite par Kyabje Tenge Rinpoche peu de temps avant son départ de ce monde. C'était il y a il y a une année. Cette prière à la lignée d'Achan des Pelden Champakayu fut écrite par Kyabje Tenge Rinpoche répondant à la requête de Sherab Jume, traducteur en qui est née la profondeur de la pratique, et de Lama Denis, un détenteur de la lignée de Vajradhara Kalo Ranjun Kunchab, qui, pour le bien de la tradition, en fit la requête avec une kata et trois pièces d'or de bonne augure. Peut-être une petite explication sur la lignée d'Achan des Champakayu. Alors, la tradition Champakayu est l'une des deux grandes familles Kayu. Il y a les Dakpo Kayu qui viennent de Gampopa, d'Apolaje, avec quatre branches majeures, huit mineures. Je passe parce que c'est un petit peu compliqué. Et la famille Champakayu qui vient de Chumponeljar. Et qui a aussi ces ramifications dont nous venons de parler. La lignée d'Achan est la lignée Champakyadu à partir de Jamdon Rinpoche. Jamdon Rinpoche était un maître, était à Pepung, là où est le Situpa, et il était à la fois un maître d'Apokadu et un maître Champakadu, ainsi qu'un maître de finalement toutes les lignées de pratique. Mais à partir de lui, la lignée s'est transmise dans cette forme en laquelle il y a l'union de Da, des lignées Dakpo et Champa. Et c'est ainsi que l'a nommé Vajradhara Kalo Rinpoche. Il a nommé cette lignée de transmission. Après cette prière à la lignée, et résumant celle-ci, est une la prière au maître source que nous faisons aussi tous les jours, tous les soirs. Glorieux maître source Rinpoche, siégeant en un lotus sur ma tête, me guidant par la grande bonté, octroyez les siddhis des corps, voix, esprit. Le maître source est le maître qui est le dernier maillon de la chaîne de transmission, qui est l'héritier de la lignée, de ses enseignements, de ses transmissions, et qui en est la source au sens où il est celui qui, ici, maintenant, aujourd'hui, en est le porte-parole, en est le transmetteur, l'enseignant. Et donc, on lui rend hommage en tant que à la fois dernier maillon de la chaîne de transmission et aussi comme résumant l'ensemble de la transmission, dans l'imaginant dans l'aspect de Vajradhara au sommet de notre tête et lui demandant en la grande bonté, en sa grande bonté, de nous guider et de nous octroyer les accomplissements, les siddhis du corps, de la voix et de l'esprit. Donc, ensuite, commencent les quatre méditations fondamentales, les nonjo communs. Je pense qu'il serait, pour des contraintes de temps, approprié de s'arrêter ici pour ce soir. Et s'il y a des questions ou des remarques sur cette première partie, elles sont maintenant les bienvenues. S'il vous plaît.
Oui, une question de Sonam Namgya Dalvar.
Bonsoir Sonam.
Alors, combien existe-t-il de lignées au sein des différentes familles de Kagyupa et ont-elles toutes la même source d'origine?
Combien existe-t-il de lignées au sein de la famille Kagyupa et ont-elles toutes la même origine? Alors d'abord, oui, elles ont toutes la même origine, qui est l'éveil et qui est Vajradhara. Ensuite, dans la famille Kagyupa, il est deux grandes traditions. Les Marpa Kagyu ou Dakpo Kagyu, qui viennent de Marpa le traducteur et de Dakpo Lajé. Voilà. Dakpo Lajé est le nom de Gampopa. Donc il y a les Marpa Kagyu ou Dakpo Kagyu. D'accord ? Et la deuxième grande famille, ce sont les Champa Kagyu qui, eux, viennent de Tchumpo Neljor. D'accord ? Enfin, c'est un petit peu... Après, ensuite, les Marpa Kagyu, Dakpo Kagyu, ont quatre branches majeures et huit branches mineures. Les quatre branches majeures sont, ont procédé des quatre principaux disciples de Gampopa, dont le premier Karmapa, Tusum Kenpa. Et l'un de ces quatre grands disciples de Gampopa, Pamodrupa, eut lui-même huit principaux disciples qui furent à l'origine des huit branches mineures. Donc, dans la famille Marpa ou Dakpo Kagyu, il y a quatre branches majeures et huit branches mineures, dont la branche Karma Kagyu, qui est celle du Karmapa, qui est la plus importante et la plus connue. Et puis, dans l'autre famille, les Champa Kagyu, il y a différentes branches. C'est, si on entre dans les détails, encore beaucoup plus compliqué. Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a vu l'essentiel de cette ramification dans la prière à la lignée. Voilà. Et les deux lignées Kagyu ont finalement aussi convergé en la personne de Jamgon Rinpoche. Et c'est ainsi que depuis celui-ci, de Jamgon Rinpoche à Drubon Norbo Tundrup, qui fut le maître source de Vajradhara Kalo Rinpoche, et à votre serviteur aujourd'hui, son disciple et héritier, que la lignée est arrivée jusqu'ici.
Encore une question sur le net de la part de Vanessa.
Vanessa, bonsoir.
Alors, bonsoir à tous. À propos de Milarepa, avant de construire toutes les tours, Marpa lui demande de refaire une sorcellerie. Pourquoi ? Est-ce que cela fait partie des épreuves ? Je ne comprends pas.
Oui. Mais ça fait partie des épreuves et des tests. L'exemple de Milarepa est un exemple extrême, car Milarepa a commis de graves méfaits dans son enfance. Il a été, on pourrait presque dire, un serial killer. Il a, par sorcellerie, tué 35 personnes et plus. Et c'est, comprenant la gravité de ses actes et dans un repentir très sincère et dans l'aspiration à échapper aux conséquences karmiques terribles de ses méfaits, qu'il est entré dans la voie et qu'il a finalement rencontré Marpa, qui lui fit passer par tout un ensemble de dures épreuves pour qu'il puisse purifier ses mauvaises tendances et devenir le réceptacle approprié à la transmission, ce qu'il devint finalement, et méditant avec un courage, une vaillance extraordinaire, il est arrivé à l'éveil de son vivant, et il reste connu aujourd'hui encore comme le modèle des yogis et des ayant transmis l'inspiration de l'éveil en de très beaux chants de réalisation. Il est à la fois un yogi et poète. Voilà, donc les chants nous inspirent toujours. Bien, s'il vous plaît.
Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des tests aujourd'hui ou les tests ont été remplacés par les nandro?
Des tests?
Oui, vous disiez tout à l'heure que...
Il y a toujours des tests et des épreuves. Mais, somme toute, les temps ont changé. Les tests et les épreuves sont franchement plus soft. Parce que nous ne sommes pas Marpa et il n'y a pas de véritable Milarepa au sens où ce qu'ils vécurent, au sens de ce qu'ils vécurent. Hein? Et aussi, l'époque ayant changer, les mêmes moyens avec leur intensité, voire leur violence, certaines fois, ne sont pas toujours, c'est un euphémisme, approprié. Mais sur le fond, oui, il reste des épreuves et et on est amené à se tester et à être testé et à dépasser ces blocages, à dépasser ces résistances, à dépasser ces hésitations. Et c'est ce qui se passe aussi bien dans la relation que dans la pratique des nandro. Un petit moment de contemplation pour conclure. toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Nous continuerons lundi et je vous souhaite une bonne soirée, que tout soit propice au marron.